Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous. Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la campagne européenne de Matteo Salvini.
Et oui, avec cette internationale souverainiste, c'est la formule trouvée par la Repubblica pour qualifier cette alliance des droites radicales lancée par Salvini lundi pour les élections européennes. Le ministre de l'Intérieur et chef du parti d'extrême droite, la Ligue, qui tente de fédérer autour d'un objectif constitué, je cite, le groupe le plus important au Parlement européen. Sur quelle ligne, avec quelle chance? On en parle avec vous, Pascal Delwitte, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, co-auteur de l'ouvrage Les partis politiques en Belgique. Alors, pour l'Europe, là, le but, c'est de fédérer les deux ou trois autres formations de droite autour du groupe Europe des Nations et des Libertés dont fait partie la Ligue et le Rassemblement National. Là, ils sont quatre partis à avoir lancé leur campagne lundi avec la Ligue. Il y a également les vrais Finlandais, le Parti populaire danois et la AFD allemande. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, vous? C'est cette alliance des partis nordiques et d'Europe du Sud, ou le fait qu'on ait seulement 4 partis sur les 34 des principales formations de droite là?
Je dirais que l'ambition de Salvini, c'est d'élargir et essayer de fusionner les deux groupes qui rassemblent principalement les droites radicales aujourd'hui. Et c'est également que les droites radicales présentes dans le groupe des conservateurs et réformistes européens rejoignent cette nouvelle alliance. Et donc son ambition au meeting de Milan, c'était surtout de convaincre effectivement les deux partis de droite scandinave et l'AFD de bien être dans la démarche. Ça semble possible. En revanche, l'invitation qui a été lancée aux démocrates suédois a jusqu'à présent reçu une fin de non-recevoir. Donc l'ambition fondamentale, c'est d'apparaître comme la force qui monte et de s'imposer comme un groupe qui compte, le troisième, le quatrième ou le cinquième du Parlement européen en fonction des résultats.
Et alors, pour savoir à quoi on a affaire, justement au Parlement, je disais, il y a trois partis de droite radicale ou droite eurosceptique, que sont l'Europe des Nations et des Libertés, le groupe CRE, conservateur et réformiste européen, et puis l'Europe de la Liberté et Démocratie directe, qui font ensemble une 140 députés, à peu près. Mais là-dessus, le NL est le plus petit de ces partis. Pourquoi vouloir fédérer à partir de lui?
Il veut fédérer à partir de lui dans la mesure où, en 2014, l'échec notamment a amené l'AFD dans l'ENL était surtout lié à des questions de personnes. Et puis, il y a une grande nouveauté dans le groupe des conservateurs et réformistes européens. C'est a priori le départ du plus grand parti de ce groupe, c'est-à-dire le Parti conservateur britannique. Donc, en tout état de cause, il y avait des réflexions à droite et à la droite de la droite sur quelle nouvelle configuration, à la lumière de la poussée des partis de droite radicale depuis 5 ans, à la lumière du départ annoncé du Parti conservateur britannique du Parlement européen, et d'essayer de reconfigurer un grand groupe qui puisse essayer de frapper les imaginations et qui, bien sûr, dans le cadre d'un grand groupe, bénéficiera des effets d'un grand groupe, c'est-à-dire plus de moyens, plus de temps de parole, plus de postes dans les commissions parlementaires, plus de capacité à influer sur les nominations de personnes, par exemple.
Et d'ailleurs, vous parliez des Britanniques, là, la question va se poser différemment, puisqu'il faudra voter, ils voteront également pour les européennes, hein, on l'a appris hier, il y aura donc des députés sans doute Brexiters, et puis alors c'est 159 hein, députés au total pour ces partis. On a aussi beaucoup évoqué dans les articles les divergences et convergences de ces groupes, de ces partis, pardon, sur les valeurs, sur l'immigration, sur l'économie, la diplomatie. Quand Salvini propose une Europe des peuples qui relève la tête et qu'il parle du contrôle des frontières, est-ce qu'il choisit là le plus petit dénominateur commun en fait entre eux?
Les deux plus petits communs dénominateurs de ces partis, c'est d'une part une position nationaliste, ce qu'on qualifie de souverainiste, c'est-à-dire hostile à un approfondissement de l'Union européenne et très certainement à un cours fédéral de l'Union européenne. Et deuxièmement, le rejet de l'autre, surtout le rejet des immigrés, le rejet des demandeurs d'asile. Donc ça, c'est vraiment les deux grands thèmes fédérateurs des droites radicales. Après, il y a bien sûr énormément de différences entre eux. On peut relever très certainement les questions socio-économiques avec des postures qui vont d'un social chauvinisme à une position très libérale. Et de manière très notable aussi, et ça, assez logique pour des partis nationalistes, des différences très importantes en matière de relations internationales, certains très tournés vers les États-Unis, d'autres au contraire, plus tournés vers la Russie par exemple.
Même si Matteo Salvini effectivement a dit qu'il se tournerait aussi bien vers les uns que vers les autres, mais ce serait difficile pour la Lega proche de la Russie d'aller convaincre d'autres partis conservateurs, par exemple polonais. Ce qui fonctionnerait, ce qui fonctionnerait pas encore, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aussi interne à ces partis souverainistes? C'était Alexander Goland de l'AFD qui le disait. L'Union européenne n'est pas un État, elle n'a pas besoin de Parlement, mais tant que le Parlement existe, nous voulons avoir de l'influence. Au fond, jusqu'à où ils peuvent tenir ensemble?
Ils peuvent tenir ensemble dans une logique de rejet. Ce qui fixe et ce qui oriente une politique de rejet est assez simple. Rejet de l'union des bureaucrates, rejet de l'union fédéraliste, rejet des immigrés, rejet d'une Europe qui accueille l'immigration. En revanche, dès qu'il s'agit d'être dans une logique d'édification, de bâtir et de programme commun, très vite, il y a des différences à l'intérieur même de l'Union européenne. On peut d'ailleurs observer des différences notables. Un parti comme le parti des vrais Finlandais, qui était au meeting de Milan, c'est un parti, par exemple, est totalement hostile à toute forme de solidarité intra-européenne et donc notamment à toute forme de solidarité intra-européenne vers les États d'Europe du Sud, chose que ne vont pas facilement accepter la Ligue du Nord, le Rassemblement national français, ou a fortiori des partis portugais, espagnols ou grecs, par exemple. Donc, dès que vous rentrez dans la logique de choix des politiques publiques, les différences vont s'exacerber, entre autres parce que c'est des partis nationalistes.
Et va se poser aussi peut-être la question du leadership, puisque pour l'instant, je le disais, c'est l'ENL, l'Europe des Nations et des Libertés, duquel font partie le Rassemblement National et la Ligue de Matteo Salvini. Il y a donc cette série de rassemblements milanais de Salvini, qui a promis un autre rassemblement le 18 mai à Milan, où il y aurait 15-20 pays, et parallèlement une tournée européenne de Marine Le Pen, qui ira en République tchèque, Slovaquie, Belgique. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre ces deux démarches, finalement?
Il n'y a pas d'incompatibilité, et au demeurant, la Ligue du Nord et le Rassemblement national font déjà partie du même groupe au Parlement européen. Après, il faut bien observer que c'est les deux qui sont les plus emblématiques des droites radicales, deux figures emblématiques venant de deux pays importants, l'Italie d'un côté et la France de l'autre. Évidemment, il y a quand même une forme de course au leadership entre qui est dans le vent depuis que la participation de la Ligue au gouvernement est assurée et qu'il a passé un peu comme un tour du gouvernement. Et Marine Le Pen, qui a récupéré depuis son échec à l'élection présidentielle de 2017 et qui essaye aussi de fédérer autour d'elle et d'atteindre cet objectif symbolique qui, dans le cadre français, est de battre la liste de la République en marche.
Et cet objectif de 15-20 pays représentés, il est atteignable selon vous? Là, c'est intéressant de voir les pays qu'elle va visiter, Marine Le Pen, et les partis, un ancien allié du Front National, ex-Front National, le Vlaams Belang, mais aussi, on pourrait dire, des partis dont on parle peu en République tchèque et Slovaquie.
Oui, il y a des partis, je dirais, relativement historiques, comme effectivement le Vlaams Belang, qui est un parti assez vieux et avec lequel le Front National entretient depuis toujours de très bonnes relations. Et puis, il y a ces dernières années le développement de nouveaux partis en Europe centrale et orientale, que ce soit en République tchèque, que ce soit en Slovaquie. Il peut aussi y avoir des discussions avec des partis polonais et des partis hongrois. Et donc, chaque parti est bon à prendre, et en particulier, chaque parti qui obtient des sièges au Parlement européen est important parce que chaque siège supplémentaire, je dirais bien sûr, par définition, renforce le groupe et donne aussi le sentiment, je dirais, de mouvement. On sent bien que dans le chef des partis de droite radicale, il y a cette volonté très forte de donner le sentiment de l'acteur qui monte face à une Europe qu'il considère considèrent comme décadentes et au retour de ce qu'ils appellent la parole du peuple et la parole de la nation.
Et vous le disiez aussi, vous parliez d'Europe centrale, même un appel du pied assez clair de Matteo Salvini, on pourrait dire au PIS de Pologne, avec cette citation, le projet d'alliance s'inspire du rêve de Saint Jean-Paul II qui reconnaissait la diversité des cultures et des nations. C'est sûr que il y a une opportunité à saisir. Sur juste les possibilités de gagner, il y a eu plusieurs sondages faits, notamment un officiel au Parlement européen qui disait un cinquième des sièges, ça ne va pas bouger, même s'il y a d'autres projections qui donnent quand même l'ensemble de ces trois partis en légère hausse, qui pourrait éventuellement être à concurrence avec le Parti populaire européen.
Alors, a priori, mais il faut toujours être prudent, parce que l'élection, c'est pas des électeurs, mais a priori, l'ordre PPE et sociaux-démocrates premier et deuxième semblerait rester. La question qui va se poser est plutôt fixée sur le troisième groupe, et là, c'est l'ALDE qui est en ligne de mire. Après, il y a aussi des questions qui restent en suspens, et en particulier d'éventuelles négociations avec d'autres grands partis. Hein. On sait qu'il y a des discussions informelles entre Droit et Justice de Pologne et certains responsables de cette alliance. Il y a également des discussions avec le Fidesz de Viktor Orban et cette alliance. Bien évidemment, si d'aventure des partis comme le Fidesz et le parti comme Droit et Justice de Pologne devaient rejoindre l'alliance, là vous rentreriez dans une logique où cette alliance pourrait viser la deuxième place et s'imposer comme un des grands groupes.
Oui,
en tout cas, tous, même si d'aventure ils ne deviennent que troisième, ce serait déjà une performance et ça va bouleverser les négociations assez classiques qui s'opèrent entre les sociaux-démocrates, les conservateurs et les libéraux au lendemain des élections européennes.
À suivre alors. Merci beaucoup Pascal Delvide pour vos explications. Merci.